When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma, version courte mais chic quand même. Ça s'appelle l'Extra Ball, notre petit coup de projecteur épisodique sur une sortie du moment. Comme au hasard, Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald, avec ma camarade Perrine Kenson qui est là pour en parler. Bonjour Perrine.
Salut Thomas.
Salut, et Cénociné Extra Ball spécial Les Animaux Fantastiques 2, et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Perrine, je dois te faire un aveu. Je ne sais rien. Mais alors rien des Animaux Fantastiques. Je n'ai pas vu le premier. Si ce n'est que c'est tiré de l'œuvre d'Harry Potter, plus ou moins, de l'univers étendu d'Harry Potter. Est-ce que tu peux m'expliquer à moi, le néophyte, ce que c'est les Animaux Fantastiques?
Alors oui, c'est dans l'univers d'Harry Potter. C'est toujours J.K. Rowling hein, qui a écrit Harry Potter, qui est un peu aux manettes du scénario. Mais cette fois-ci, c'est pas tiré des livres comme Harry Potter où il y avait sept bouquins qui étaient sortis, adaptés en 8 films. Mmh. Là, cette fois-ci. Tout est parti d'un livre, d'un spin-off qu'avait fait J.K. Rowling, qui s'appelait Les Animaux Fantastiques, donc était un des livres qu'étudiait Harry Potter dans les films, en fait, sur les créatures mythiques, mythologiques. C'est un peu de la cryptozoologie des sorciers, quoi. Mmh. Et ils ont décidé d'extraire cette idée-là et de la développer. Donc en fait, il n'y a pas de livre, Les Animaux Fantastiques. C'est un pur produit de cinéma, voilà. Mais on extrait plein de choses. Donc le but du jeu, c'est qu'ils vont faire 5 films. Donc il y en a déjà eu un, le deuxième, et puis il y en aura 3 autres, qui se déroulent à peu près sur 19 ans, de 1926 à 1945. Donc vous voyez à peu près la période dont je veux parler. Et donc l'idée, voilà, c'est de développer, de raconter un peu le passé de ce qui va arriver jusqu'aux affaires de Harry Potter, plus ou moins, nous raconter le passé. Donc en fait, finalement, quand on n'a pas vu Harry Potter, c'est pas très très gênant de regarder
c'est suffisamment détaché des films pour qu'on puisse suivre
complètement. Après, il y a plein de petits clins d'œil, c'est-à-dire que voilà, les fans sont servis, ils sont là, c'est machin, je sais très bien, parce que lui il va devenir oui, on est content, mais non, voilà, c'est juste ça, on peut s'amuser avec un petit peu avec les clins d'œil,
un peu de fan service.
Mais si on n'a pas ce background là, c'est pas du tout gênant pour la compréhension, et c'est là où je trouve que par exemple Les Animaux Fantastiques sont une réussite en soi. Déjà, c'est parce qu'il arrive complètement à se détacher pour moi de l'univers d'Harry Potter, tout en restant dans cette même idée de magie. Et cette fois-ci, donc là, Harry Potter était vraiment très très centré sur la vision des sorciers made in England, quoi. Enfin, on était vraiment sur la partie anglaise du monde des sorciers. Vite fait, dans l'épisode 4, on avait une vision qu'il y avait des sorciers dans le reste du monde,
français notamment,
voilà, on avait les français. On avait des Croates ou je ne sais plus, enfin par là,
des gens, l'Est du monde.
Voilà, on avait un petit peu l'idée que le monde des sorciers était un peu plus vaste que simplement le Royaume-Uni, quoi. Et donc les Animaux Fantastiques reprennent cette idée de par le biais déjà des animaux. Les animaux eux-mêmes viennent des quatre coins du monde. Oui. Donc on a ce personnage un peu central qui est Norbert Dragono, enfin Newt Scamander pour les Wall Street English. Et donc c'est un peu l'idée. Et donc c'est lui, c'est cet amoureux des bêtes qu'on va un petit peu suivre, et c'est un petit peu un faiseur de paix. C'est quelque chose d'intéressant, en fait, ce personnage, parce que c'est un vrai héros masculin, mais qui n'a pas qui est loin d'un Dwayne Johnson, si tu veux, dans l'idée. Il est vraiment même l'opposé.
C'est dommage.
Il a rien du tout du mal de cinéma d'action qu'on aurait plus l'habitude de voir. C'est quelqu'un d'assez introverti, un peu timide, basé sur l'intellect et l'ouverture et l'amour des choses bizarres, parce que voilà, c'est quelqu'un qui cherche avant tout à ce que les choses soient. Il ne cherche pas à ce qu'il peut gagner, mais plutôt est-ce qu'on peut faire la bonne chose. Donc voilà, on a ce personnage un petit peu central. Et dans le premier, il essayait d'importer un animal aux États-Unis pour le remettre à sa place, là où il avait grandi, en Arizona, puisqu'il avait été capturé, blablabla. Et donc en fait, il s'est retrouvé pris dans une affaire beaucoup plus grande que lui, finalement, où, avec un espèce de mage, donc une menace, Grindelwald, un petit peu comme la menace de Voldemort un peu plus tard dans Harry Potter. Mais là, on a cette fois-ci Grindelwald qui... Qui est en train de faire une montée de quelque chose, une sorte de montée un peu FN, j'ai envie de dire, puisqu'il essaye de rassembler les sorciers de sang pur pour qu'ils regagnent leur place dans la société, assumer leur domination par rapport aux moldus. Les moldus, c'est les gens qui n'ont pas de pouvoir, c'est les gens comme toi et moi. Oui. Et donc, voilà, créer une sorte de révolution où les sorciers seraient dominerés et les autres...
Ce qui est un peu le projet de Voldemort, si je ne m'abuse.
Ce qui est un peu le projet de Voldemort, un petit peu derrière. Hein. Oui. Mais là, d'un seul coup, ça prend une autre typologie.
Connotation
c'est évidemment.
C'est les années 30.
Puisque c'est les années 30 et on va clairement dans autre chose. Donc là, déjà dans le premier épisode, on avait quitté le Royaume-Uni pour aller aux États-Unis. Oui. Donc on avait découvert un autre monde magique et c'était plutôt bien. Le premier était assez... un petit peu sombre, on sentait quand même cette montée, quelque chose. Pareil, il y avait une espèce de société anti-sorcier complet qui existait avec des fous furieux un petit peu genre cubéni de l'extrême. Et donc il y avait quelque chose d'un petit peu dark, mais il y avait aussi un très grand sens du merveilleux dans le premier épisode. C'était très beau d'ailleurs de découvrir, à un moment donné, on rentre dans la valise de ce fameux Norbert où il détient tous les animaux dedans, dans un monde extraordinaire. Vraiment, il y avait un retour au merveilleux que j'avais pas eu depuis les premiers Harry Potter. Oui. Voilà, d'un seul coup, on était vraiment surpris, on rentrait dans un monde très différent et très très bien mis en scène par David Yates, qui est le réalisateur un peu officiel des Harry Potter à partir du 4 ou le 5, je sais plus, je crois que c'est à partir du 4. Et parce qu'avant on avait eu Quaron, on avait eu Chris Columbus, on avait eu d'autres gens, mais à partir d'un certain moment c'était David Yates. Et le même producteur tout le long, hein, qui est David Heyman, Mr. Paddington aussi. Donc, on avait vraiment ce sens du merveilleux que je trouvais absolument incroyable, et d'un seul coup dans le deuxième. Je trouve ça assez osé parce que on prend un tournant vraiment très 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 sombre, mais vraiment sombre, quoi. C'est-à-dire que le film ne cherche même plus à... Moi, à un moment donné, je me demande vraiment à quelle presque audience il s'attaque, en fait, à qui il s'adresse. Parce que clairement, l'univers des Harry Potter, c'est les gamins qui ont maintenant, je sais pas moi, 10-11 ans, puis ceux qui l'ont découvert de mon âge, qui l'ont découvert quand ils étaient un peu plus jeunes. Et je pense que c'est plus fait pour les gens de mon âge que finalement les gamins de 10-11 ans, parce qu'il y a vraiment un tournant. Presque violent, c'est pas le mot, parce que il y a jamais une violence incroyable, mais il y a un fond terriblement sombre, terriblement dur, avec des meurtres assez gratuits, mais comme la violence est assez gratuite, c'est-à-dire en soi le principe même de violence est gratuit. Oui. Donc il y a quelque chose comme ça qui je trouve assez osé pour un film comme ça qui se veut être très grand public, qui a beaucoup d'argent derrière, qui est une franchise énorme. Il va sortir en France sur quelques 800 copies, enfin faut se rendre compte de ce que c'est énorme. Vraiment énorme. Oui. Ils attendent beaucoup de choses de ce film-là, et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de fans potentiels qui vont être un petit peu perturbés.
Est-ce qu'on n'avait pas dit ça déjà du troisième Harry Potter, celui de Quaron, qui justement avait une tonalité beaucoup plus sombre, avait relancé complètement la machine quelque part.
Tous les Harry Potter, plus on avance dans Harry Potter, plus ça vire dans le sombre, clairement. Les derniers, l'avant-dernier d'ailleurs était quelque chose d'assez spectaculaire parce qu'il ne se passait quasiment rien pendant tout le film et c'était vraiment passionnant. Là, on n'est pas dans le rien, on est toujours dans la transition. On voit donc Grindelwald, le fameux méchant qui s'est révélé à la fin du premier, continue son emprise. Il s'est évadé parce qu'il avait été emprisonné. Il s'évade dans une scène absolument spectaculaire d'évasion, vraiment ultra violente pour le coup et ultra spectaculaire. Et va commencer à rassembler ses troupes en allant à Paris. Et donc cette fois-ci, tout se passe à Paris. Et on change encore de continent, on change de pays. Donc c'est aussi fascinant cette reconstruction de Paris. Ils ont entièrement reconstruit Paris dans un studio anglais. Hein. Ils n'ont pas tourné à Paris, à part je crois quelques scènes d'extérieur, mais très très peu. Mais sinon c'est vraiment encore une fois une vision de Paris un petit peu fantasmée, un petit peu très belle. Paris fin des années 20, début des années 30. C'est vraiment très très beau encore une fois. Donc, moi ce qui m'impressionne littéralement avec les animaux fantastiques, c'est un sens de l'esthétique et de la mise en scène très très développée. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est une grosse machine qu'on oublie à un moment donné d'avoir du style. Et ces films ont du style, quoi. Ils ont une patte, on sait tout de suite dans quel univers on est, on reconnaît à l'image, on reconnaît l'ambiance, et je trouve que c'est vraiment en soi pour moi une vraie réussite d'une telle franchise. Et donc on avance dans cette histoire où il va faire monter son emprise et des gens vont le rejoindre, et c'est assez estomacant. Il y a notamment une scène où donc c'est joué par Johnny Depp, et Johnny Depp a une scène où il va faire un grand discours pour rameuter les troupes. On a l'impression d'être encore une fois un meeting du FN, c'est vraiment ou à cette occasion-là plutôt un meeting des national-socialistes, quoi. Et il va rassembler les troupes en leur disant, en retournant toute l'affaire, en faisant du vrai sophisme, en retournant tout, en disant bien que c'est eux les gentils et que c'est les autres qui les attaquent et que donc ils ont raison de se défendre. Et c'est terriblement perturbant. Enfin, moi, je vais dire un truc, j'ai fini presque en larmes à ce moment-là, parce que le lien avec l'actualité est presque beaucoup trop fort, en fait. Oui. Il est vraiment très, très gênant. Et c'est pour ça que je trouve le film, encore une fois, à une espèce de résonance et d'intelligence. C'est facile, vous me direz, de faire ça, mais en soi, pour une telle machine, non, je trouve que c'est assez osé. Et c'est assez amusant, d'ailleurs, parce qu'il sort le même jour que Suspiria. Et finalement, ils ont des thématiques très très proches, et sur de manière complètement différente de faire, mais sur des thématiques très proches, sur l'embrigadement, sur le nazisme, ce qui reste du nazisme, ce qui reste d'une forme de d'élitisme social déplacé. Enfin, je saurais même pas comment le qualifier, mais voilà, il y a quelque chose comme ça qui est très très fort, et je trouve que non, c'est une, pour un numéro 2, ils arrivent à garder l'intérêt, et encore une fois, à la fin du film, on va encore voyager dans un autre pays, on arrive en Autriche, donc les choses se précisent.
Voilà,
donc voilà, clairement, le lien n'est pas discret avec le nazisme, c'est clairement volontaire, ouais. Mais je trouve que, encore une fois, pour un film à destination d'un très très large public, il a une vraie intelligence de connaître déjà l'époque dans laquelle il parle et l'époque dans laquelle il est, dans laquelle il sort. Donc je trouve que c'est pour ça, en soi, encore une belle réussite du duo David Emmal et David Yates.
Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald, en ce moment au cinéma. Notre temps est écoulé. Merci beaucoup Perrine, merci Quentin, à la technique, à l'antenne pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
Binge.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.